temps, il n'y a plus de cabine au pick-up. Ben oui. Ça a été écrapou, bien raide. Et là, au moment où on se parle, parce qu'il y a des fermetures, mais aussi à cause de ça, Seigneurial, c'est très difficile de circuler justement à la hauteur de Capitale. Fait que si vous pouvez éviter le coin pour vous rendre chez vous, mais ça pourrait quand même bien faire.
Pas mal de trafic à cette heure-ci, Audrey. On a 30 degrés, on est sous le soleil. Tout le monde a le goût de sortir en même temps.
Tu vois, je regardais justement s'il n'y avait pas une mise à jour là, concernant les voies coupées. Là, puis c'est vraiment une voie par direction de couper à la hauteur de la Capitale due à cette sortie de route qui utilise vraiment
une vraie de vraie, là, oui, oui, oui.
Puis évidemment, oui, comme Véro dit dans le coin, c'est bordélique. Sinon, ben, c'est un peu les classiques, là, Capitale, direction Est, entre Henri IV et Robert Bourassa, toujours difficile. Ça s'est allégé, par exemple, direction Ouest. Il y a des problèmes sur Henri IV Sud de Wilfrid Hamel au pont. Duplessis Sud, ça se passe de Charest au pont. Si on transfère sur la rive Sud, ben là, c'est le même ralentissement que depuis le début de l'émission et comme chaque jour, là. Fait que la 20 Ouest entre Monseigneur Bourget et Taniata du Haut-Travaux. Est, c'est concentré à la hauteur de Taniata. Et je vous parle depuis quelques jours, pardon, que sur Guillaume Couture, là, il y a un bon ralentissement entre Chemin des Îles et Taniata. Il y a des travaux, voie de retranchée, ce qui n'aide pas. Mais là, on a aussi un accident là, près de Chemin des Îles qui fait en sorte que le trafic s'est comme un peu étiré. Chemin des Îles aussi, dans les deux directions, entre Lavin puis Guillaume Couture, c'est problématique. Pour le reste, ça semble bien aller. S'il y a autre chose, évidemment, 418-971-1021 texto.
Vous l'avez entendu dans les dernières minutes en studio avec nous, Élise Berger-Pelletier, urgentologue. Salut, Élise!
Bonjour, amis.
Tu passes un bel été?
Merveilleux. Je vous racontais qu'on a vécu un rêve de famille. On est allé au Japon.
Toute la famille?
Toute la famille. Oh. On a économisé plusieurs années pour ça.
Crème.
Et maintenant, c'est chose faite. On a la tête remplie de souvenirs. C'est un... Il n'y a pas de voiture sur les... Il y a tellement de trains, de métro, de transports alternatifs. Il n'y a presque pas de bouchons de circulation au Japon. C'est face à Tokyo, qui est 22 millions de personnes quand même. Là.
Qu'est-ce que tu as vu de plus beau là-bas?
De plus touchant slash ben, traumatisant dans le bon sens. Hiroshima est quelque chose quand même.
J'imagine.
Que, le musée de la paix, en fait, qui appelle. Mm-hmm. Sur... En fait, tu suis des victimes de la bombe. Là, puis c'est aujourd'hui, en fait, c'est l'anniversaire de la bombe nucléaire, d'ailleurs. Donc ça a été, tu sais, ma fille qui est très sensible, elle n'a pas été capable de finir la visite. Elle pleurait parce qu'entre autres, il y a des enfants. Ils montent comme des vêtements brûlés. Tu sais, c'est vraiment, okay. Tu vis
c'est
comme...
C'est très tangible. Là.
C'est très tangible, mais la ville est magnifique. Il y a une île qui s'appelle Miradima, qui n'est pas très loin, qui a un beau temple avec des chevreuils qui sont comme full accoutumés aux touristes qui viennent te voir, t'es flat. C'était vraiment impressionnant, Hiroshima. Mais la culture, l'ambiance, le respect... Tu sais, moi, je suis un peu une introvertie aussi. Là. J'avais l'impression d'être dans mon hood, là, d'être dans ma gang. Là. On fitait, nous
on
autres,
est
là.
En majorité les introvertis
exact,
au Japon.
Exact, ouais. Exact.
C'est drôle parce que c'est une destination que tes enfants avaient choisie. Hein?
Oui, exact.
Puis, tu sais, actuellement, là, partout dans le monde, il y a une seule culture qui attire autant les jeunes. Puis Québec l'a vécu la semaine passée quand on a fait l'événement Tuk Tuk à la place Jean-Béliveau.
Oui.
Là, ils ont comme perdu le contrôle de la popularité de l'événement parce que, tu sais, je voyais un de tes garçons qui était habillé en samouraï, là. Amène des touristes ici, puis dis à un petit gars, « Hey, on va te déguiser, je sais pas, en coureur des bois, aucun intérêt. » Mais il y a quelque chose de fascinant avec la culture nippone, avec les mangas, puis tout le kit, qui fait que ça semble être une destination numéro un pour des familles ces temps-ci.
Ah, écoute, ben oui, puis tu sais, en plus, maintenant, Montréal offre à chaque jour un vol direct Montréal-Tokyo. Fait que c'est quand même, bon, ça coûte cher, mais c'est accessible dans le sens que, tu sais, 13 heures, t'es rendu là.
C'est combien de temps? 13 heures,
ouais. 13 heures, ouais. Plus 13 heures de décalage. Fait que c'est comme un 24 heures.
Comment est-ce qu'on fait 13 heures d'un avion pour virer fou?
Ouf, on écoute beaucoup de films.
Okay.
Puis en y allant, en plus, tu pars en début d'après-midi, fait que t'es pas capable de dormir vraiment, là. Fait que ça, oui, j'ai écouté 5-6 films, je pense.
Hey, avez-vous vu qu'on va inaugurer le vol sans escale le plus long de l'histoire bientôt? C'est... Combien de temps je veux le retrouver, là? Donnez-moi 2 secondes.
C'est 23 heures.
C'est 22 heures.
Ouais.
Donc, avec 238 passagers à bord, c'est Qantas Airways qui prévoit de lancer l'année prochaine les vols sans escale les plus longs au monde entre Sydney et Londres.
Donc, c'est une bonne distance, ça.
22 heures de temps. La compagnie aérienne australienne qui a dévoilé le premier de ses nouveaux Airbus qui ont été modifiés pour faire... un petit peu plus d'espace, étant donné que tu vas passer 22 heures dans le dit avion. On a placé également un système d'éclairage là, qui simule lever du soleil, coucher du soleil, des petites patentes de même. Je ne sais pas s'ils vont jusqu'à offrir de la nourriture mangeable ou des formats d'alcool qui peuvent être satisfaisants, là, mais faudrait pas exagérer. Là, on est dans un avion, après tout. Faudrait toujours bien pas avoir du fun, là, quand même. Là.
Mais c'est quand même désagréable, des gens qui ont
quelqu'un
trop de fun.
Quelqu'un qui a trop
dans
de
dans
fun, puis
oui,
qui
je vous le donne,
avion, là,
je vous le donne. Je vous le donne. Mais 22 heures d'un avion, juste 13 heures, je suis pas sûr que je serais capable. Moi, je visite le Japon pour pas cher. Je suis en train de jouer Assassin's Creed Shadow. Chacun son budget, Élise. Hein,
écoute, ça va te donner un avant-goût. Je suis sûr que tu vas vouloir y aller.
Peut-être. Si je retrouve mon courage un jour de prendre l'avion, j'adorerais aller au Japon. Le Japon qui est l'anti-véro du baseball. Hein. Eux autres, ils aiment ça pour vrai. Là.
Ah, ouais. Et on est allé à une game des Tigers à Osaka.
OK.
Moi, j'aime les stades de baseball. J'allais aux expos quand j'étais petite. Mm-hmm.
T'aimes le baseball ou les stades de baseball?
Stades,
moi aussi, j'aime les stades.
J'aime les stades
j'aime
de baseball.
J'aime la nourriture de baseball. Là.
Mais l'ambiance qu'il y avait là était impressionnante. Mon mari se faisait beaucoup regarder parce qu'il est très grand, puis déjà un 6 pieds 2,5 pour un Japonais moyen qui est probablement 5 pieds 8, 5 pieds 9. Les enfants, c'est drôle, ils regardaient comme ça dans le stade avec sa grosse voix. Il s'est fait filmer beaucoup. Je pense qu'il était sur quelques Instagram de Japonais.
Wow. Hey, on va parler d'actualité médicale, puis peut-être commencer avec ça parce que c'est des images qui sont frappantes dans tous les sens du terme. Avez-vous vu les images de la dame qui souffre d'Alzheimer, qui crache au visage des policiers puis qui se bat avec eux autres? Moi, c'est une job que je ne serais pas capable de faire. Des cas lourds comme ça à l'urgence, vous devez en avoir un puis deux aussi, là?
Écoute, c'est notre quotidien. Je pense à mes collègues qui sont gardiens de sécurité, mes collègues préposés aux bénéficiaires qui sont vraiment plus d'heure en heure avec ces patients-là. On se fait... Écoute, il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelqu'un qui se fait frapper. Là. Je veux dire, c'est commun.
C'est à ce point-là.
Puis, ben, c'est sûr que l'urgence étant le dernier rempart, souvent, c'est les cas extrêmes.
Les plus poqués.
Exactement. Les CHSLD sont capables de gérer ces cas lourds-là.
Parce que quel pourcentage peut venir de cas avec des troubles cognitifs, un peu comme la dame atteinte de l'Alzheimer?
Bien, tu vois, j'ai regardé, excellente question, parce que je me la suis posée en lisant l'article. Puis, tu vois, dans ce que j'essayais de trouver, Alzheimer, il faut être quand même assez sévère. Quand je parlais de ça avec des gériatres, j'aime l'image de dire qu'on a une insuffisance du cerveau. Tu sais, on peut faire de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance des poumons. Quand l'Alzheimer, là, c'est vos cellules de cerveau qui sont mortes, puis plus ça va, plus vous êtes en fait, vous êtes dans vos replis d'humain, de survie, ou etc., vous êtes plus trop conscient de ce qui se passe autour de vous et c'est là que vous pouvez devenir agressif. C'est entre 20 et 64. Puis c'est ce qu'on voit aussi, là. Mm-hmm. Puis le problème qu'on a actuellement, puis on se rappelle, la commissaire santé-bien-être a fait une grosse publication, je pense que ça fait 2 ans, c'est qu'on n'a pas de place pour ces gens-là. C'est nos CHSLD débordent. Il faudra en construire des dizaines et des dizaines d'autres qu'on n'a pas. Fait que malheureusement, puis évidemment, je ne suis pas au courant du cas de la dame du journal, mais c'est qu'on a des cas qui sont très limites, qu'on met dans des ressources où on le sait que c'est peut-être pas parfait, mais en attendant que, puis on essaie de les encadrer, puis etc. Puis il arrive des incidents comme ça, mais je vous le dis, puis ces gens-là, là, ils te regardent, puis ils veulent te frapper. Là. Oui. Puis moi qui travaillais enceinte, là, j'ai toujours dit, moi, j'avais pas peur. J'avais pas peur de vraiment, en niveau santé mentale, puis ça, on faisait attention. Chaque fois que je me suis fait frapper dans Bédène, c'était par des personnes âgées qui souffraient d'Alzheimer, puis je me suis juste pas méfiée. Des petites madames, toutes petites, là, puis...
Tu t'attends pas à ça.
Exactement. Hein? Là, je sais pas ce que j'ai dit, je sais pas ce que j'ai fait, mais pouf, à un moment donné, ils décident d'agir, puis là, t'es comme, oups.
Mais qui les gère dans ce temps-là quand ça arrive?
Bien, en fait, nous, à l'urgence, on a vraiment des protocoles. Puis, tu sais, maintenant, là, avant, quand j'ai commencé il y a 15 ans, on avait même pas un gardien de sécurité pour l'urgence. Maintenant, on en a à plusieurs endroits. On a un secteur où on a des portes barrées, où on a plusieurs gardiens de sécurité, de plus en plus, puis ce qui aide vraiment pour éviter la violence, c'est d'avoir des membres de la famille. Je travaillais de nuit en revenant de vacances, puis à chaque fois qu'on a des cas agités, on essaie de rejoindre les enfants, puis là, pouvez-vous venir nous aider? Puis ça calme tellement, c'est un repère, parce que dans la maladie d'Alzheimer, c'est les dernières choses qui disparaissent de la mémoire, c'est les enfants, les proches. Fait que ça nous aide grandement. Mais sinon, après ça, c'est qu'on a un protocole, on essaie de leur parler, on essaie tranquillement. Puis malheureusement, des fois, il faut donner des médicaments ou faire des contentions, mais ça arrive de plus en plus. Puis les policiers sont impliqués. Là. Des fois, c'est impressionnant. Ils ont tellement pas conscience. Ils sont extrêmement violents. Puis il faut les encadrer. Puis les paramédics, on va être super habitués. Des fois, ça nous prend les policiers. Ben oui, oui, exactement.
Ça fait énormément jaser. En fait, ça se répand comme une diarrhée, littéralement. Plus de 220 Québécois qui sont malades avec le même parasite intestinal qui frappe les États-Unis présentement. Diarrhée explosive. Ça a fait des morts aux États-Unis. Là, faut-tu arrêter de manger de la salade, là? C'est-tu ça?
En fait, si vous ne mangez pas de la salade locale, regardez de où elle provient.
Okay.
Parce que là, en fait, le problème, c'est un parasite qui s'appelle la cyclosporose.
Mm-hmm.
Puis, c'est un parasite qu'on n'a pas au Québec ou au Canada, même si l'été, puis il fait chaud. Ça prend vraiment des chaleurs très prolongées. Fait qu'il y en a au Mexique, il y en a aux États-Unis. Puis, les cas du Québec, en fait, c'est des gens qui ont voyagé au Mexique.
Je lisais qu'il fallait que les nuits soient constamment au-dessus de 22 degrés pour qu'ils puissent survivre. Puis, si même quand il fait beau, c'est rare qu'on garde ça, là.
Est-ce que c'est quelqu'un qui souffrait de diarrhée explosive qui a fait du vandalisme à Lévis pour écrire rage de flux non. à un terrain de golf?
C'était avant ça. Tu fais des drôles de liens.
Ben écoute, j'essaye de faire du
aux États-Unis, en fait, ce qui s'est passé, puis c'est toujours la même chose, c'est de l'eau contaminée. Vous rappelez-vous, il y a quelques années, il y a eu entre autres une épidémie de E. coli.
Absolument.
Avec okay. la salade romaine. Puis ouais. bon, même affaire, c'est que malheureusement, à un moment donné, les eaux d'égout touchent à l'eau qui arrose les champs. Et les eaux d'égout, ben il y a évidemment des matières fécales avec les petits parasites en question qui vont sur la petite salade. Et entre autres, le E. coli, puis c'est la même chose pour la cyclosporose, c'est que même si vous la lavez, il va souvent rester
okay.
des petits parasites. Puis dans ce cas-ci, je riais, mais c'est pas drôle, là, mais dans le sens, c'est qu'il y a eu une contamination d'une compagnie, puis c'est la compagnie qui fournit les restaurants Taco Bell. Fait que tout Whoops. Le monde qui est allé manger des petits fajitas, burgers avec de la salade dans les Taco Bell, c'est comme ça là, que l'épidémie est partie aux États-Unis. Puis là, je trouvais un peu un clickbait de mettre « explosé ».
Oui, ma question s'en allait là, t'sais, parce que quiconque a déjà eu une gastro à un moment donné a de la misère à se retenir. Qu'est-ce qui distingue cette diarrhée-là, de l'explosive?
Ben, en fait, c'est le choléra, entre autres, est aussi dans les diarrhées les plus fulminantes. Fait que, tu sais, vous n'explosez pas, mais c'est très liquide, très fréquent, très abondant.
Ça se prie, là.
C'est, oui, c'est ça. Vous ne serez pas capable. Vos sphincters ne seront pas capables de maintenant.
Okay.
C'est ça.
Mais les personnes qui sont décédées aux États-Unis n'ont pas explosé.
Non, exact. C'est pas non. une mort secondaire à l'explosion, probablement à la déshydratation.
D'accord.
Et probablement, souvent, c'est soit qu'il y avait un système immunitaire faible, soit qu'il y avait d'autres maladies. Puis c'est que ça peut être long. C'est ce que je disais, là. En fait, ça peut être quelques jours à quelques semaines. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça se détecte facilement et ça se traite facilement une fois qu'on le sait.
Tu peux avoir la diarrhée de même plusieurs semaines.
Bien, en fait, c'était une des choses aux États-Unis qui était un problème. C'est que, tu sais, puis c'est parce que ils n'ont pas un système public, hein. Fait qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à aller consulter. Fait qu'ils étaient probablement chez eux avec de la diarrhée bien longtemps. Puis finalement, ça finit par guérir tout seul si ton système immunitaire est
apte. Parce que on est habitué à une diarrhée à la limite de 24 heures, 48 heures.
Quand tu dis « on », c'est toi, ça.
Mais non, mais les gens, c'est ça, une gastro, tu sais.
Mais pour les gens qui vont au Taco Bell régulièrement, comment on fait pour faire la distinction entre la diarrhée habituelle du Taco Bell versus, mettons, la diarrhée...
Taco Bell. C'est pour ça que j'ai souri un peu quand j'ai vu ça venait de là. J'ai fait « ah, bon, d'accord ».
Mettons que les jokes de digestion versus le Taco Bell spawnaient cette semaine avec cette nouvelle-là, là, mettons.
Non.
Fait que pas de stress ici.
Pour l'instant, pas de stress. Okay. En plus, vous avez, okay. en plus là, ces temps-ci, c'est les marchés. Puis ça. Fait que si vous
achetez... la laitue locale. Là.
Exactement. Fait que profitez-en, achetez local.
Parlant de stress, les demoiselles de Gravel dans le retour ont été bien fessées par le reportage qu'elles ont lu en fin de semaine sur les troubles de dysphorie prémenstruelle.
Oui.
C'est quoi ça?
Ben, en fait, c'est intéressant parce que, puis je l'ai appris pour faire ma chronique, parce qu'en fait, on le sait tous que le cycle menstruel a un impact sur l'humeur. Puis je vais vous l'expliquer.
Pour vrai?
Oui! Je te le dis.
Toi, c'est quoi ton excuse, Denis, pour ton humeur?
Je croyais que c'était un mythe travaillant depuis 5 ans avec des femmes où je suis pas capable de déterminer où se trouve le cycle menstruel. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas de feeling là-dessus du tout.
C'est l'affaire la plus insultante au monde, Denis. T'as pas idée. Parce que s'il y a quelque chose dans la vie sur lesquelles les femmes n'ont pas de contrôle, c'est leurs hormones dans leur vie. Fait que de se faire souligner que ça peut-être être lié et que c'est insultant.
C'est fâchant, ça
n'a pas,
pas
d'allure. Vous autres, c'est quoi votre excuse pour vos
mais là, fâche-toi pas après moi. Là, tu me l'as dit. Je t'aurais jamais posé de questions là-dessus. Là.
Je vais t'arracher la tête.
Bref, si je reviens à mon explication scientifique, je ne veux pas rentrer dans ce conflit-là. Vous, les hommes, votre cycle hormonal est sur 24 heures. En fait, nous, il est sur 28, 30...
Ça explique tellement de choses.
Mais c'est important de le comprendre, pour vrai. Puis, Véro a tout à fait raison. On n'a pas le contrôle sur ça. Puis, en fait, c'est qu'après les menstruations... le cycle commence avec les menstruations. Ensuite de ça, il y a l'ovulation. Puis, c'est après l'ovulation, quand le corps fait OK, il y a une grossesse, il n'y a pas de grossesse, il n'y en a pas, les taux d'hormones baissent. Mm-hmm. Et c'est là où il y a un impact au niveau de l'humeur, au niveau de beaucoup de choses, le sommeil, etc. Puis, en fait, c'est que là... Comme dans beaucoup de choses, malheureusement, on était dans un patriarcat assez intense jusqu'à récemment. Les études en médecine étudiaient à peu près pas les femmes. Il y avait tellement de diagnostics. Tu sais, je veux dire, hystérectomie, qui est la chirurgie pour enlever l'utérus, vient de hystérie parce qu'on pensait que les femmes étaient folles. Je m'excuse, puis je mets des guillemets, mais vous savez très bien que je le pense pas, parce qu'il y avait un utérus. Bref, c'était le bordel, là. On recule dans, mettons, au 19e siècle.
On n'est pas trop loin de la préhistoire. Hein?
C'est, oui, je sais. Ouais. C'est récent qu'on a des études là-dessus. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait des femmes qui souffraient tellement par rapport à leur cycle menstruel qu'on a mis un diagnostic dans le DSM-5 qui est la bible en psychiatrie pour la dépression, les troubles anxieux, le spectre de l'autisme, etc., etc. Puis on s'est rendu compte qu'entre 1 à 8%, ça dépend des études, des femmes qui avaient tellement un impact sur la baisse d'hormones qui devenaient afonctionnelles. Puis c'est vraiment ça qui est important pour avoir un diagnostic de trouble. C'est pas juste genre, ah, tu sais, je suis fatiguée, je me sens pas bien aujourd'hui, ou tu sais, ah, je suis irritable, puis tu sais, je vais être menstruée dans 2-3 jours. C'est je suis pas capable d'aller travailler tellement je suis déprimée. Je fais juste pleurer toute la journée. J'ai aucune...
C'est pas de même le reste du cycle. Exactement. C'est vraiment juste dans cette période-là.
Puis ça se répète. Donc, c'est pas juste un cycle, mais c'est à chaque mois. Ça reste un diagnostic d'exclusion. Fait qu'il faut aller voir un professionnel, il faut faire des tests. Puis ensuite de ça, on peut le traiter. Il y a deux options de traitement. Il y a le traitement un peu comme pour la dépression, donc des traitements antidépresseurs.
Mais c'est comme si tu faisais une dépression à tous les mois.
Exact.
Ou
C'est littéralement ça. Tu as tout compris. Fait que c'est quand même intense. Puis l'autre option, c'est de contrôler le cycle.
Ça commence tranquillement pas vite à être amené par les travailleurs sociaux, entre autres. Moi, tu vois, ma TS, c'est déjà quelque chose qu'on avait abordé ensemble, pas par rapport à moi nécessairement. Mais
on dit à environ 1,6% des femmes qui ont ça. C'est quand même un chiffre
intense.
Énorme.
Mais ils se rendent compte, quand tu consultes, que ce soit une psy ou une travailleuse sociale, ils se rendent compte que tu as beaucoup de femmes, mettons, qui consultent, qu'au bout du compte, le problème, c'est même pas un déclencheur dans leur vie. Ils se mettent vraiment à suivre le cycle. Puis quand tu ça se répète plusieurs fois dans l'année, bien, à un moment donné, on se rend compte que on va commencer à développer une boîte d'outils parce qu'une fois par mois, tu vas remettre ta vie à l'envers, tu vas avoir envie de tout te sacrer là, puis de défaire ta famille, puis de, tu sais, c'est vraiment rendu plus poussé maintenant.
Mais là, il y a moyen de se guérir,
oui,
entre guillemets.
Oui, exactement. Puis comme beaucoup de diagnostics en psychiatrie, il y a la psychothérapie, il y a la boîte d'outils qui n'est pas pharmacologique. Évidemment, moi, je suis un médecin, fait que j'ai toujours un petit biais que je vois. On pense aux cas les plus sévères, mais il y a des options pharmacologiques. Donc, comme je disais, traitement antidépresseur au long cours ou, encore une fois, hormonothérapie. Il y a une hormone particulière qui a été étudiée pour ce traitement-là qui semble fonctionner. Écoutez, il y a des cas extrêmes où ils ont même fait une ovarectomie, donc enlever l'œsophage pour créer la ménopause pour traiter ces femmes-là. Donc, oui, il y a un traitement. Je pense que c'est surtout ça aussi, là. Un, c'est d'en être conscient. Maintenant, on est plus sensibilisé à ça tranquillement, mais sûrement. Deuxièmement, une fois qu'on a le diagnostic, il y a des traitements. Je pense que c'est... Puis c'est le fun, d'en parler à la radio parce que, comme je vous dis, je savais même pas. Je suis allée lire ça, je fais ben oui, ça fait tout à fait du sens.
Non, puis je pense que les SPM, ça a tellement été des jokes pendant des années parce que, justement, c'était pas étudié. Puis c'est un peu la manière de... faire choquer, là. Mais là, on est rendu un petit peu plus loin dans les études qu'on a fait. Fait que c'est intéressant de voir ça sortir.
Moi, j'ai eu une blonde, à un moment donné, qui faisait de l'endométriose. Oui. Puis elle, c'était des douleurs, là. Ça avait tellement de l'air de faire mal, là. À chaque fois qu'elle avait ses menstruations, là, elle n'était pas capable de sortir de chez eux. Puis ça peut aller... Est-ce que ça peut aller... Tu sais, l'endométriose, c'est quoi, dans le fond, c'est...
En fait, c'est, dans le fond, les trompes qui sont attachés à l'utérus. Donc, l'intérieur de votre utérus, en théorie, il y a accès à votre abdomen. Fait que c'est des plaques de l'intérieur de l'utérus qui vont se disperser partout dans votre ventre.
Ouais.
La crampe menstruelle de votre ventre peut se ramasser avec des quantités importantes un peu partout dans l'abdomen. Fait que ça fait super mal. Puis c'est aussi une cause d'infertilité.
Je veux pas dire de conneries, mais est-ce que ça peut aller jusqu'à enlever l'utérus?
Oui.
Ouais,
même chose, enlever l'utérus, enlever les ovaires parce qu'on ne veut pas stimuler l'intérieur à chaque mois. Donc oui, Puis il y a beaucoup de femmes, entre autres, dans les programmes d'infertilité qui vont finir par avoir une laparoscopie, donc une caméra pour aller voir l'intérieur. Puis là, c'est là qu'on va faire bingo, beaucoup d'endométriose. On va enlever ça, puis là, après ça, ben on peut avoir des bébés.
Des femmes qui se reconnaissent là, dans ce qu'on va appeler le trouble dysphorique prémenstruel, qu'est-ce qu'ils font? Parce que là, il y en a qui nous écrivent.
Oui. En fait, même il y a 8-1 option 2 qui est vraiment pour le volet santé mentale. Vous allez pouvoir travailler, parler soit à travailleur social, avoir contact. Si vous avez un médecin de famille, allez voir votre médecin de famille. Puis sinon, ben il y a quand même des bonnes ressources. Là, sincèrement, je suis allée voir sur Internet, puis il y a des choses qui sont quand même fiables. Vous pouvez aller lire là-dessus. Mais oui, c'est de rentrer dans le système. Là, je sais que c'est pas toujours facile l'accès.
Non.
Ça peut être long. Là.
C'est ça. 8-1 option 2, qui est vraiment pour le volet santé mentale, vont vous aiguiller. Si ça prend un traitement, comme je disais, pharmacologique, ben là, c'est là où ça va prendre un docteur. Les psychologues aussi, maintenant, DSM-5, sont tout à fait capables de vous aider, d'avoir un diagnostic.
C'est-tu quelque chose qui peut commencer plus tard ou c'est quelque chose que tu as dès que tu as ton cycle puis dès que ça apparaît?
Ce qui était intéressant dans les lectures que j'ai faites, c'est qu'il semblerait qu'il y a un plus fort pourcentage chez les adolescentes. Puis probablement qu'il y a une immaturité du cerveau qui doit venir avec ça. Puis là c'est moi qui fais une hypothèse scientifique qui est non prouvée. Mais ils voyaient des plus hauts pourcentages chez les jeunes filles. Puis après ça, ça se stabilisait à l'âge adulte. Fait que non, c'est pas nécessairement, genre, plus tu vieillis, pire c'est.
Okay.
Il y a la périménopause qui est une autre histoire parce que les hormones baissent. Mais non, c'est tout âge, en fait. Même les jeunes filles, les 15-16 ans, peuvent avoir le diagnostic.
Puis là, nous autres, avec un cycle hormonal aux 24 heures, c'est quoi nos problèmes, là?
Une petite dépression par 24 heures.
Ouais. C'est entre quelle heure puis quelle heure? Des fois, je pense que c'est entre 5 heures puis 6 heures le soir. Moi.
C'est ça, exactement. Mais en fait, c'est que ça joue sur l'humeur, mais différemment. C'est beaucoup avec la testostérone. Puis encore une fois, c'est pas... des fois, c'est plus l'irritabilité, etc., etc. Fait que c'est moins sur les volets dépressifs, je te dirais, chez les hommes. C'est très différent. Puis encore une fois, c'est pas tant étudié non plus.
C'est nouveau qu'on s'intéresse à ça.
Vraiment. Ben, en fait, c'est bien, ceci dit, parce que je pense que ça veut dire qu'on est en train... Tu sais, la santé mentale, c'était tellement tabou jusqu'à récemment.
Ben
maintenant,
oui.
On se rend compte que c'est normal que les hormones aient un impact sur nos humeurs, sur notre cerveau. Fait que voilà.
C'était la chronique « Il était une fois l'humain ». Élise Berger-Pelletier, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Élise Berger-Pelletier est urgentologue. Et on a eu un message qui est rentré tantôt, un message mystérieux alors qu'on parlait de diarrhée explosive.
C'est vrai, hein?
Il semblerait que tu as un enfant qui a trouvé ça très, très drôle, ce segment-là en particulier. Hubert pas mal du sujet abordé par sa mère.
Oui, sur la route, vu que je suis de garde de soir. Donc, salut les cocos. Puis oui, Hubert devait trouver ça vraiment drôle.
Bon, on était deux à rire, au moins, c'est déjà ça. 17h22, vous êtes à Boulevard 102.1, sous le soleil à 30 degrés. C'est Gravel dans le retour.
Pour joindre l'équipe de Gravel...
Ah, là, je vous reconnais!
Gravel dans le retour, ça gagne à être connu.
OK.
Ce que j'ai sous les yeux, est-ce que c'est une véritable nouvelle?
Absolument.
Donc je vais la lire. TVA Nouvelle qui confirme que la santé publique met en garde des visiteurs du zoo de Granby qui auraient été en contact avec un macaque concernant des cas de herpès de type B.
Pourquoi il est parti? J'ai soudainement des questions.
Mais l'herpès de type B qu'ils ont eu en... entrant en contact avec un macaque. Est-ce qu'on donne des détails sur le type de contact?
Mais là, précisément, non, pour répondre, mais précisément, c'est le macaque japonais et ce serait le 4 août.
À travers un grillage.
C'est ça. Fait que si vous êtes allé le 4 août, il y a deux jours, la journée des VTT, puis vous avez été en contact avec le macaque japonais, faut faire attention.
Faut pas se faire toucher par des macaques japonais.
Faut pas se faire toucher par des macaques japonais, idéalement. Normalement, tu essaies de pas te faire toucher par un macaque tout court, là, mais c'est si, mettons, tu as mis tes mains, puis tu aurais une petite griffure, une petite morsure, une petite plaie, ou peu importe. Là.
Mais je pensais pas que tu pouvais encore passer ta main à travers les grillages pour les animaux. Mais tu sais, le seul zoo que je fréquente, c'est le zoo sauvage de Saint-Félicien, ou encore, je vais à l'Aquarium de Québec. Là,
c'est quelle partie du singe qui s'est sortie par le grillage,
Denis,
pour réussir à entrer en contact avec des humains?
C'est quelque chose aujourd'hui.
Mais ça, on n'a pas particulièrement de détails, mais comme je te dis, c'est si la salive entre dans une plaie. Fait que c'est pour ça qu'on
sort d'une plaie fraîche ou d'une mucole. Si t'as frenché le macaque japonais, t'es dans marde.
Voilà.
Ouais.
Si t'es fait graffiner ou mordre.
Non, je comprends.
C'est en...
faut pas shock de monkey. Faut pas shake de monkey non plus.
Non, c'est tout ça.
Non. Don't spank the monkey. OK. Oui, j'essaie juste de penser au gars qui dit ouais, je suis venu voir mon docteur, j'ai l'herpès. T'as pogné ça où? Au zoo.
C'est tannant, là.
C'est tannant un peu, hein.
On peut-tu appeler ton partenaire? Ben, ça, c'est le numéro du médecin vétérinaire au zoo, là.
Il y a des fois des gens qui réfléchissent pas. Je me suis ramassée à l'hôpital il y a quelques semaines pour un rendez-vous, puis il y a une fille qui est allée s'inscrire avec son chum à l'infirmière, mettons, là. Mm-hmm. Puis là, elle boitait un peu, puis elle expliquait à l'infirmière qu'elle avait joué avec des animaux sauvages.
Hey, si, j'ai entendu des histoires de même, ouais. C'était en fou.
Puis qu'elle s'est fait mordre.
J'ai voulu nourrir un raton laveur.
Ouais. Puis là, écoute, elle aime bien les animaux. Elle s'est fait mordre. Elle a attendu parce qu'elle pensait pas que c'était grave, mais là, sa jambe a commencé à pas filer, elle. Puis là, tu vois l'infirmière qui tape, mettons, puis qui prend son nom, puis qui est comme...
S.O.S. C'est
vraiment comme...
Tu sais, la fille qui arrive chez le médecin, puis qui dit « Hey, j'ai l'herpès de type B », puis là, le médecin, il demande, dit « Bien, vous avez pogné ça avec qui? » Puis là, elle dit « Un asto de macaque japonais. » Le docteur, c'est quoi sa première réaction? C'est de dire « Bien là, je comprends que ça a mal... »
Raciste.
Je comprends, ouais, que ça... Ça. Je comprends que ça a mal fini avec ton ex qui vient de l'étranger, là, mais un peu de respect, s'il vous plaît, madame.
Seigneur.
Aïe, aïe, aïe.
On n'a peu plus de détails sur ce qui s'est passé.
Au zoo?
Non, pas au zoo.
OK, on a fini cette nouvelle-là. Là. C'est malheureux.
Mais je peux te parler des loutres de l'aquarium pendant une heure?
Non,
si
non,
veux,
non,
là,
non, non.
Si
tu n'as pas pogné l'herpès avec les loutres, ça m'intéresse
pas. Non, ils ne te laissent pas les toucher là-bas.
Ah bon?
Puis ils ont l'air bien, bien propres. Ils n'ont pas l'air d'avoir d'herpès. Non, plutôt l'incident assez spécifique.
Tu as déjà pogné l'air bête, toi, par exemple?
Ah, oh, fréquemment.
Oui, une couple
c'est
de fois.
Qui me donne.
Ouais, pas besoin de se toucher pour ça. Hein.
Systématiquement,
ça,
la
c'est
seule
dans l'air,
personne
hein,
qui me donne l'air bête, c'est Denis.
Ça se transmet par un regard. C'est dans cette affaire-là.
Ouais. Tantôt, là, tantôt.
Une absence de regard.
Ouais. Tantôt, à Kelly, j'y ai redonné l'air bête.
Mais tu fais, t'as comme un talent pour ça.
Ouais, c'est pas.
Non, plutôt l'accident spectaculaire qui a eu lieu en milieu d'après-midi dans le secteur de Capital à la hauteur de Seigneurial. En fait, je devrais dire sur Seigneurial. C'est un camion de compagnie de toiture. C'est vraiment pick-up avec une boîte en fibre de verre qui a fait un vol plané. Capital direction Est, a pogné le muret, a jumpé, et selon un témoin, si je me fie à l'article du Soleil, je crois, il arrivait d'un genre de 50 pieds dans les airs. Ouais, avant de se crasher plus bas, puis c'est pas des blagues, c'est la boîte en fibre de verre ne tient plus sur la boîte du pick-up.
Hey, pense-y, t'as le temps de te voir tomber, là.
Audrey, toi, tu penses qu'on tombe au ralenti?
Ben,
on
oui,
se souvient
là,
que dans ta tête, si tu tombais d'un pont, tu aurais le temps d'enlever ta ceinture,
oui,
de
oui,
te faire
oui.
un brushing, de te remaquiller.
De baisser sa fenêtre à moulinette. Puis,
oui, mais
ouais.
Tu sais, je veux dire, quand tu tombes d'un pont de même, t'as quand même eu le temps de se dire « fuck ».
Ben, c'est sûr que... peut-être...
Ah, peut-être... ouais.
Peut-être qu'il s'est pas rendu au CK.
D'après moi, il s'est pas rendu au bout.
C'était le seul véhicule impliqué et, miraculeusement, en bas aussi, il était le seul véhicule impliqué. Le gars qui a été capable de sortir lui-même de sa camionnette, qui aurait dévié de sa trajectoire. Pour quelle raison, on ne le sait pas encore, alors qu'il circulait sur l'autoroute. Puis le ministère des Transports a beaucoup, beaucoup de caméras. C'est sûr qu'ils vont regarder cette vidéo-là au party de Noël.
Là, j'ai les hypothèses de scénario concernant ce que le gars a réussi à dire avant de faire sa drop. Ce serait... On sait pas encore.
C'est des possibilités.
On dit qu'il s'est pas rendu au bout.
Mais je me demande comment tu... Soit t'es vraiment sur ton sel solide en train de regarder une série Netflix, genre, là.
Ben, c'est
ou
peut-être...
t'as consommé. Ou
c'est,
t'as...
c'est à quelle heure, hein?
15h30. Qu'est-ce qu'on faisait à 15h30?
On regardait le porno des Pirates des Caraïbes.
Ah, fudge.
Peut-être ça qui est arrivé, là.
Pour ça qu'il a dit fuck.
Peut-être que quelqu'un a décidé, il dit, hey, ils décrivent le film porno de Pirates des Caraïbes, mais aller le checker moi-même. Fait qu'on a peut-être causé un accident dans le trafic. C'est de la faute du Pirate des Caraïbes.
Mais on en rit parce qu'il va bien, là. Sinon, on pourrait pas rire.
C'est la faute du pirate, là. Stone Cold Jackson, qui s'appelait.
Ça, c'est la soirée d'Audrey, hein.
J'ai retenu le nom.
Encore traumatisé.
17h34. On sait que le plein emploi amène certains problèmes. Avez-vous vu les chiffres aujourd'hui sur le manque de travailleurs qui fait en sorte qu'il y a des entreprises qui ferment? Puis, tu sais, on comprend que c'est un lobby, puis on comprend que différents scénarios font en sorte qu'il y a une méchante marge entre le meilleur scénario puis le pire scénario, mais le résultat est le même. C'est qu'il y a des centaines d'entreprises qui ferment présentement au Québec, parce qu'il manque de travailleurs.
T'sais, on est à même de le constater. Combien de business que vous appréciez ont changé leurs heures d'ouverture ou leur journée d'ouverture, ou encore il y a certains services qui ne sont plus offerts, ou encore qui vont essayer tant bien que mal de ficeler avec ce qu'ils ont entre les mains. Fait que même si c'est un lobby, on voit des signes.
Ah oui. Tu sais, les SAQ, là...
Denis, c'est pas de ça qu'on parle.
Ah non, c'est vrai, c'est eux autres parce qu'ils sont très, très syndiqués. Il y a donc le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec qui disent que entre 400 et 1500 entreprises cesseraient leurs activités chaque année en raison du manque de travailleurs. Il n'y a pas de données précises, mais on a produit un modèle pour fournir une estimation, ce qui fait que la marge est quand même grande entre le scénario le plus positif, 400 entreprises qui ferment chaque année, et le scénario le plus catastrophique qui est à 1500. Mais que ce soit un chiffre ou l'autre, ou n'importe lequel entre les deux, là, c'est des entreprises puis c'est du monde en tabarnouche.
C'est
là.
Triste.
Oui, c'est triste. Puis effectivement, on commence à voir les impacts de ça. Dans les petites nouvelles économiques qui ont retenu mon attention, dans la presse de ce matin, le journaliste Vincent Brousseau-Pouliot pose la question: dans les 25 dernières années. Ça veut dire que dans les 25 dernières années, toutes les couleurs de gouvernement sont passées, ou à peu près. Qui a le plus profité des baisses d'impôts depuis 25 ans?
Qu'est-ce que tu veux dire, qui?
Quel groupe? C'est-tu des célibataires pas d'enfants? C'est-tu des pauvres? C'est-tu des riches? Dresse-moi le portrait du public cible qui a eu le plus de lousse avec les baisses d'impôts, tu as une partie de la bonne réponse.
Parce que tu sais, il me semble qu'il y a eu plusieurs crédits, entre autres, pour des garderies, pour les loisirs.
Puis toutes les couleurs de gouvernement, quand vient le temps de baisser les impôts, va viser ce qu'on appelle la famille moyenne.
Donc, les riches, sinon.
Et tu as la deuxième bonne réponse.
Je suis allée par déduction, je me suis dit que si on en parle, c'est parce que c'est outrant.
Deux catégories de contribuables, les familles et les riches, qui ont le plus profité des baisses d'impôts à Québec et à Ottawa depuis 25 ans.
Donc, les familles riches, c'est encore pire.
Non, mais pas nécessairement, parce que c'est les familles les plus pauvres qui en ont profité des baisses d'impôts. Mais c'est intéressant ce qu'ils ont fait. C'est une grosse étude de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université du Sherbrooke qui a été publiée aujourd'hui. Puis tous les Québécois nantis, moins moins nantis, avec enfants, sans enfants, ont bénéficié à divers degrés de baisses d'impôts. Mais depuis 25 ans, aider les familles est un objectif fiscal clair, peu importe la couleur du gouvernement. On a comparé la situation de 24 types de contribuables selon leurs revenus entre 1999 et en 2024. Un travail de moine, on a calculé les baisses et les hausses d'impôts sur le revenu des particuliers, mais aussi tout ce qu'on appelle les crédits d'impôt et les allocations familiales et sociales à Québec et à Ottawa. Ils ont travaillé, hein, on va se le dire. Par exemple, en 25 ans, une personne seule gagnant 50 000 par année a vu sa charge fiscale diminuer de 3 590 $. Ça veut dire que en 2024, une personne seule gagnant 50 000 par année a 3 590 $ de plus dans ses poches qu'en 1999.
Okay.
Vous me suivez? Un couple avec deux enfants gagnant le même salaire, combien ils ont de plus dans leurs poches, eux autres? 21 358 $.
Okay.
C'est une méchante différence.
Vraiment?
Hein? Donc, c'est ça qui est le fun avec les chiffres. Puis, les grands gagnants parmi les 24 types de contribuables, c'est les couples avec deux enfants qui ont un revenu très modeste, parfois sous le seuil de la pauvreté, entre 30 000 et 50 000 $.
Parce que là, ils ont fait le comparatif avec une personne vivant seule. Est-ce qu'ils ont fait les grands perdants? Parce que moi, dans ma tête, les personnes qui vivent seules puis les personnes retraitées, parce que souvent, c'est pas majoré.
Mm-hmm.
J'ai l'impression que c'est les deux groupes qui sont les plus perdants.
Tu sais, on parle tout le temps du contribuable moyen. Comment est-ce qu'il s'en sort, le contribuable moyen? Mais le contribuable moyen, il n'existe pas. Fait que ce que l'Université de Sherbrooke a fait, c'est qu'ils ont fait 4 profils de contribuables moyens. Parce que c'est pas tout le monde qui a la même situation, puis il y a trop des écarts. Fait que ça répond peut-être en partie à ta question. La personne seule qui fait 50 000 par année, c'est 3 590 $ de baisse d'impôts dans ses poches. Couple sans enfant, 125 000 $ par année, c'est 8 063 $ de plus dans leur poche. Famille monoparentale avec un enfant, 65 000 de revenus, c'est 14 339 $. Et il y a des gens plus fortunés qui économisent davantage. Le couple avec deux enfants, que les deux ensemble font 150 000 $ de revenus, c'est 16 616 $ d'économie. Fait qu'au total tout, c'est la famille qui va gagner. Et mon petit doigt me dit qu'au provincial, dans la campagne électorale qui est presque commencée à ce temps-ci, j'ai l'impression que les familles vont se faire beaucoup courtiser encore. Les familles dans la région de Québec, il y a beaucoup de monde qui sont supposés vous parler s'ils font le job comme il faut. Là.
Éric Duhem aujourd'hui a dit qu'il allait proposer des baisses historiques en taxes et en impôts, puis que lui, dans le fond, son champ de bataille, la place où il veut gagner des députés, c'est vraiment Capitale Nationale puis Château-Appalaches.
Il veut oser pour vrai.
C'est le slogan du Parti conservateur qui a été annoncé un peu plus tôt aujourd'hui.
C'est un gag visuel, mais il est très bon.
Je me mentais si
il y a quelqu'un qui fait partager une image sur les réseaux sociaux où Éric Duhem présente sa nouvelle voiture, la Duhem Mobile.
Il y a sa face, il y a le slogan qui est sur la porte du côté conducteur. Là,
la personne a juste rajouté une lettre au slogan pour en changer le sens. Oser pour vrai, mais avec un L au début. Ça fait loser pour vrai.
C'est pas gentil.
Humour de base.
Ils vont en avoir beaucoup par ce. Tu sais, des mots O-S-E-R, là.
Ouais.
Que tu peux changer juste la première lettre, là. Je pense qu'il y en a une couple pour lesquelles ça peut être le fun. Là.
Oui, bien là, les autres slogans, on les connaît pas encore.
Encore,
là.
Non. Puis faites-vous en pas qu'ils vont tous passer à cette game-là.
Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est toujours intéressant parce que ça a de l'air niaiseux, là. Mais eux autres misent beaucoup là-dessus, là. Fait qu'il y a beaucoup d'argent qui est passé à produire le slogan. Le mot oser, là, ils en ont parlé pendant 8 heures autour d'une table avec des cafés, là, pendant...
Ouais,
faire
des tests. Oui.
Absolument. Oui, c'est de même que ça marche. Fait que tu vas voir juste avec ça qu'est-ce qu'ils veulent mettre de l'avant. J'ai hâte de voir s'il va y avoir le pays pour le Parti québécois. Si on va parler de nouveau avec la CAQ.
Mon Dieu.
On n'a pas fini de rire, hein, finalement. Faut mieux rire parce que sinon on pleure.
Ça va être divertissant.
17h40, vous êtes à Boulevard. On s'arrête, on vient. On sait que quelque chose est attendu quand des mois avant sa sortie, tout le monde chiale déjà. Le nouveau film des Avengers, Doomsday, y a des grands débats de parties sur les réseaux sociaux, alors que quoi, il y a une bande-annonce de disponible. Et les gamers vivent sensiblement la même chose avec Grand Theft Auto 6.
Depuis maintenant 50 ans.
là, ça a été les délais, effectivement, avant la sortie du jeu qui faisait jaser. Après ça, ça a été le prix du jeu parce que ça va coûter 140 bâtons, à moins que vous vouliez que certains magasins dans le jeu Grand Theft Auto soient fermés et inaccessibles. C'est une nouvelle façon qu'ils ont trouvé de rendre ça compliqué. Ouais.
Oh, ouais.
La version totale du prochain Grand Theft Auto coûte 140 $ pour avoir accès à tous les garages, tous les magasins et ainsi de suite.
Mais c'est qui leur public cible?
Tout le monde. Rendu là, c'est tout le monde.
140 $, je veux dire, c'est pas un flot de 15 ans qui peut se payer un jeu.
L'âge moyen du gamer, le rappeler, est maintenant rendu à 40 ans. Fait que tu vises pas nécessairement les plus jeunes, puis souvent, c'est papa qui va l'acheter à son gars.
Pour pouvoir jouer
un coup que le gars est couché. Mais là, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est que la prochaine bande-annonce ou le prochain visuel auquel on aura accès pour Grand Theft Auto 6, qui, rappelons-le, va sortir d'ici la fin de l'année, ça va être lancé le 27 août prochain à 15h sur Netflix.
Ouais.
Ça va être disponible sur YouTube pendant 6 heures, mais à partir de ces 6 heures-là, le seul endroit où on va retrouver la longue bande-annonce, c'est sur Netflix. Fait que là, t'as du monde qui chiale. Je vais te donner l'exemple de quelqu'un qui a déjà payé 140 $ parce qu'il a précommandé sa copie. Ben lui, il dit, moi, je le paye pas, Netflix, mais j'ai toujours bien le droit de voir les images de mon jeu. Je t'ai déjà donné 140 $.
Mais là, si t'es en précommande, tu devrais avoir le droit, par exemple, de la recevoir par courriel via un lien, quelque chose. Là.
Ben moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire relativement facilement. L'autre affaire qui a fait chialer, c'est que maintenant, et c'est une grande révolution dans l'industrie, maintenant, on achète des jeux que nous ne possédons plus.
Il n'y aura plus de copies physiques.
On achète des licences qu'ils ont le droit de nous retirer parce qu'on achète une copie virtuelle. On ne fait plus de CD. Les nouvelles consoles, il n'y a même plus de place pour les rentrer de toute façon. Fait que tu achètes Grand Theft Auto, tu peux le télécharger. Mais mettons qu'il arrive de quoi à Sony, puis qu'il décide que ça ne marche plus. Ben même si tu l'as acheté, même si tu l'as payé 140$, Sony a le droit de te l'enlever demain matin pour quelque raison que ce soit. C'est ça.
Puis l'autre affaire, c'est qu'il y avait encore un marché qui existait beaucoup pour la revente du jeu vidéo.
Ben oui, là, c'est
mettons,
fini.
Mettons, quelqu'un qui joue pendant un bout de temps, qui se tanne, qui décide de le remettre sur le marché, puis il y a bien des gens qui sont contents d'acheter des jeux
mais
vidéo
c'est
de seconde main.
Puis il y a des jeux qui sont le fun de même aussi, là, que tu as fini en dedans d'une fin
ben
de
oui,
semaine.
Tu laisses aller.
Exact. Mais là.
Il y a une business à faire avec ça. Tu sais, à la limite, tu payes plus cher pour être sûr que s'il arrive de quoi, tu as la garantie de le garder. Tu payes moins cher, puis s'il arrive de quoi, tu le perds.
Mais la production de jeux ne donne plus rien à l'industrie. Sony sont les premiers, mais tout le monde va faire sensiblement la même chose. Puis ça a rué dans les brancards. Puis je comprends le principe de la propriété, là. Tu sais, tu charges le plein prix. C'est comme si tu chargeais le prix d'un disque vinyle pour écouter un album sur Spotify. On déborderait l'album sur Spotify à 50$, mettons.
Mais si Spotify bug... Ouais.
Moi, écoute, je pensais jamais réussir à passer cette marche-là, mais tous les derniers jeux que j'ai achetés, je les ai téléchargés. Je trouve ça pratique. Puis en même temps, ben, tu sais, t'es chez vous, t'es dans le PlayStation Store, puis tu vois qu'il y a un jeu qui est à 15$ de rabais à 11h le soir.
Oui.
Ouais, c'est... Si je l'achète, là, dans 15 minutes, je le commence, moi-là. Là, tu sais, je me suis fait avoir une couple de fois.
Ma
là.
Console n'a pas de support physique.
Ben non.
Ma console,
c'est une Xbox.
Quand Microsoft a lancé ses Xbox, la série S, la série X, il y avait une série qui a le support physique, puis l'autre ne l'avait pas. Puis moi, je me suis dit, regarde, je vais me pogner des Game Pass, je vais m'acheter des jeux en spécial. Puis là, depuis ce temps-là, on a joué dans le cloud aussi, qui est possible. Tu n'es pas obligé de télécharger le jeu sur ta console. Puis, moi, ça me convient parfaitement parce que je ne suis pas une grande consommatrice. Souvent, justement, je vais payer mes jeux en spécial ou vraiment pas cher. Puis on dirait que je vis dans cette espèce de pensée magique qu'ils ne m'enlèveront pas mes possessions, entre guillemets,
ben,
demain matin.
Il y a des films téléchargés et achetés que Sony a enlevés. Je ne sais pas, je connais pas le fin détail de l'affaire. C'était sur une console précédente, probablement la PlayStation 4, puis des gens qui les avaient achetés de façon virtuelle, à un moment donné, pour une histoire de droit ou de propriété. Imagine-toi, tu as payé ton film, tu l'as payé 35-40$, ben, du jour au lendemain, tu n'as plus accès. Et là, on va changer de console bientôt.
Ah oui.
Le PS6, il va arriver à un moment donné. Mettons qu'ils décident que si tu veux avoir accès à ta bibliothèque virtuelle de jeux, faut que tu te payes un abonnement d'un an à la PlayStation Plus. Puis que tu comprends-tu que ça ouvre un paquet de possibilités dans un monde où on a déjà abusé le consommateur là, avec le pay-to-play puis des jeux que faut que tu payes un montant supplémentaire pour être bon, puis ainsi
Parce
de suite.
Parce que cette manière-là de faire dépenser le consommateur, c'est une manière d'assurer la pérennité pour certaines entreprises.
Crash le cash.
T'sais, Apple, là, quand ils ont sorti les iPhones, les iPods, les iPads, à un moment donné, ça a été « wow, tout nouveau, tout beau, tout le monde s'en achetait ». Puis là, mine de rien, tu le gardes pendant quelques années, fait que tes ventes sont encore présentes, mais ça va par vague parce que tu le changes pas nécessairement toutes les années. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés avec des abonnements. Puis chaque fois qu'on a parlé des rapports annuels de Apple, ce qui leur fait faire le plus de cash actuellement, c'est les gens qui vont s'abonner aux services de Apple Music, aux affaires de santé, de nouvelles, ceux qui payent le cloud.
Ouais,
ça, c'est l'autre affaire.
Tout,
moi, chaque mois, j'ai un 4$ qui passe pour Apple, juste pour un cloud, pour avoir plus d'espace. Mm-hmm. C'est exactement ça aussi dans l'univers du jeu vidéo. Comment tu fais pour t'attacher du monde, puis les garder, puis t'assurer que ce soit un revenu à chaque mois? Parce que Gravel, qui a une PlayStation 4 qui est payée, qui s'achète des jeux en spécial de seconde main, Sony fait plus tant d'argent de manière récurrente avec.
C'est pas faux.
Fait que ce qu'ils veulent pouvoir prévoir, c'est hey, comment on s'assure qu'il y aura des revenus qui vont rentrer de manière un petit peu plus régulière, justement, du gamership de Gravel.
Grand Theft Auto 6 va sortir le 19 novembre et vous savez que les précommandes sont déjà disponibles. Donc, il y a des gens qui déjà ont acheté à 140$ le jeu Grand Theft Auto. Puis là, on parle de tout ça, puis on dit que c'est révoltant, Véro, pour le consommateur, puis ainsi de suite. Puis ça avait rué d'un brancard, ça avait chiolé. Là, hey, on n'a plus de copie physique des disques. On va boycotter Grand Theft Auto 6.
C'est pas vrai, il y a déjà des records de prévente.
Les profits se chiffrent déjà en milliards de dollars. $
On fait son bord de rire.
Pour un jeu qui sort au mois de novembre.
Tu sais, le jeu a coûté une fortune à produire, l'enfer. De ce qu'on sait, mais ben on oui. serait presque à la limite de rentrer dans notre argent.
C'est débile,
côté
hein?
De Rockstar.
C'est complètement débile.
Absolument.
Fascinant, effectivement. Véro, il me semble qu'on voulait jaser d'autres choses. J'ai-tu oublié?
On peut te parler du 3-1, on peut se le garder pour demain.
Non, il me semble qu'il y avait autre chose.
De quoi tu voulais qu'on se jase?
Je le cherche désespérément.
De ton talent à donner l'herbête? De...
on voulait-tu revenir sur le macaque et l'herpès de type B? Non, pas vraiment.
Non, absolument pas. Puis on est revenu sur l'accident aussi du côté de Beauport, sur l'accident du viaduc. Voyons sur quoi on voulait revenir. Là.
Mais pendant que tu réfléchis, je vais prendre la porte, par exemple, parce qu'il reste un peu de circulation.
Je suis désolé.
Capitale, direction est, à la hauteur... pas direction est, pardon, direction ouest. À la hauteur de Laurentienne. Il y a encore un certain ralentissement à prévoir. Il semble aussi avoir un accident direction est, toujours sur la capitale, un peu après boulevard de Lormière. L'entrée des ponts, léger ralentissement également. Puis la 20 direction ouest, ça ne débouche pas. Honnêtement, j'ai vraiment une pensée pour vous autres. Là. Entre Monseigneur Bourget puis Chemin des Îles, précisément, là, c'est encore un gros bordel. Guillaume Couture aussi dans les deux directions, entre Chemin des Îles et Taniata, avec les travaux en plus. Là, ça aide pas. Fait que s'il y a autre chose, 88-971-102.
J'hésite à parler du 3-1 parce que je me demande si tu as eu un traitement royal.
Je ne sais pas non plus.
Oui, parce que hier on en a parlé que tu avais fait une plainte au 3-1-1. Puis, d'habitude, y appelles-tu?
Y a certaines personnes qui ont déjà été appelées.
Oui. Toi, qu'est-ce qui t'est arrivé?
Bon, moi, j'ai pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire hier, j'ai écrit au 3-1 hier parce qu'il y a eu un vacarme aux petites heures du matin pendant 2h30 dans la cour d'un commerce à proximité où je demeure. Puis moi, j'ai écrit au 3-1 en disant, hey, c'est quoi mes recours si ça se reproduit à nouveau? Parce que tout le monde autour de moi me disait, du vacarme comme celui-là, c'est pas légal avant 7h le matin, c'est de nuit. Puis tu sais, c'est pas quelque chose d'usuel. C'est pas des travaux de la voirie, c'est pas Hydro-Québec, c'est pas ça n'a rien
savais?
À voir avec ça.
Okay. Mais ouais, c'était-tu un particulier? C'était
sur un terrain commercial.
Okay.
Sur un terrain commercial, pas un terrain de la ville. Puis j'ai rédigé mon message au 3-1 en disant hey, je fais quoi, tu sais, parce que vous êtes fermé la nuit. Puis aujourd'hui, j'ai quelqu'un du 3-1 qui m'a rappelé. Puis quand j'envoie des affaires de même, oui, c'est mon nom, mais c'est pas mon adresse de job. T'sais.
Ouais, tu fais pas exprès de plugger.
Je fais pas exprès de plugger. Puis je crie pas quand j'arrive d'un resto pour dire hey, je fais de la radio. C'est pas moi. Je suis entre la peinture et le mur. Et il y a quelqu'un qui m'a rappelé aujourd'hui des requêtes en environnement pour me poser des questions sur ce qui s'était passé, savoir si ça s'était reproduit.
Y avait-tu des réponses?
Pour m'informer qu'eux iraient voir sur place, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et oui, il y a une réponse. Parce que auparavant, quand il y avait des problèmes de bruit, c'est effectivement le 911 qu'on appelait, mais le 911, c'est des urgences. Puis moi, c'est une question de vie ou de mort quand on les appelle ou encore parce qu'il a un risque.
Mon voisin fait un partouze, puis c'est pas
Depuis
fini!
Depuis quelque temps à Québec, il y a la ligne non urgente. Le 418-691-6911.
C'est-tu contre instinctif, ça, d'appeler à une ligne non urgente alors que tu vas à l'urgence, t'attends? T'appelles pour des choses urgentes, t'attends?
Non, mais tu sais...
La ligne non urgente, là, c'est comme le détour par Montréal pour aller à la
tuque.
Oui, non.
C'est compliqué aussi, là.
Oui, mais tu sais, ça, tu le trouves. Mettons que tu t'es rendu compte que tu t'es fait voler ton bicycle.
Ouais.
Il y a personne qui va mourir de ça, puis ils partiront pas en chasse à l'homme pour le retrouver.
Les polices peuvent te pogner, par exemple.
Oui, effectivement. Heureusement, fait que, pour les informations que tu vas te donner là, c'est justement s'il y a un élément qui est perturbateur, mais que tu veux pas appeler le 911, bien, c'est des plaintes que tu peux faire, des vols, des méfaits, des délits de fuite, des objets perdus ou égarés.
C'est quelque chose à nous conter, Denis?
Non.
Pas encore?
Non.
Ça va venir. Puis, c'est carrément ce que le monsieur m'a conseillé. Si ça devait se reproduire, t'appelles à ce numéro-là, puis si on a des agents qui sont à proximité, ils vont aller voir. Ça ne sera pas une priorité, mais malgré tout, tu sais, ça peut être quelque chose de totalement illégal.
Ce qui me fascine, c'est que c'est rendu qu'on fait l'inverse. On embourbe les canaux urgents en faisant semblant qu'on a quelque chose d'urgent juste parce que tu as besoin de voir quelqu'un en santé, par exemple.
Ouais,
fait qu'une ligne qui, dès le départ, s'avoue non urgente, moi, dans ma tête, c'est un canal où tu vas attendre longtemps. Là.
Ah non, mais moi, tu vois, c'est juste que... pourquoi j'appellerais le notaire pour m'affaire dans le même.
Je suis rendu à cet âge-là.
Sans ridicule. Ou encore, si tu as un doute quelque chose, sur quelque chose, t'appelles là.
Mais là, ils vont-tu t'amener un retour du genre, bon, on l'a spoté, c'est tel commerce, puis finalement, on les avertit.
Je suis très curieuse. Je suis très curieuse.
C'était vraiment si dérangeant que ça.
Denis, je te l'ai dit, de 4h à 6h30 du matin, si je sais pas, moi, si je m'en vais dans ta cour avec une pelle, puis que je gratte ton asphalte, puis que ça fait un bruit de métal rouillé pendant 2h30 de temps.
Je serais pas heureux.
Toi aussi, tu vas pogner les nerfs. Puis comme je te dis, moi, je dors comme une roche d'habitude. Là. Fait qu'il fallait que ça soit un vacarme.
On a 30 degrés à Québec. On s'enligne pour une moseuse de belle soirée. Quelques nuages. Il n'y a pas de possibilité d'averse. Le minimum est à 18. Et demain, on remet ça, pourquoi pas, du soleil. Mur à mur, maximum de 30 degrés. L'humidex est à 37. La fin de semaine, ça a changé? OK, oui, samedi, alternance soleil-nuage, 26. Les probabilités d'averse sont au cours de la nuit. Fait qu'on a peut-être sauvé notre journée de samedi. Par contre, dimanche, on prévoit des averses avec un maximum de 26.